fin de Vaïkra, au chapitre 26, verset 3, juste là. Page 80. Bien. Alors, cette paracha est une des parachiotes les plus difficiles de la Torah, pas tellement du point de vue de l'étude, de ce qui est dit dans le texte, du point de vue du contenu. Il y en a une seule qui correspond dans cette difficulté que je vais définir, c'est la paracha de Kitaro dans le livre de Dvarim. C'est ce qu'on appelle la paracha de Klalot. Le texte essentiel de la paracha, on va étudier quelques versets, je vous lirai des midrashim à ce sujet. C'est une sorte de, je vais vraiment te dire, de dilemme, d'alternative qui s'attache au fait que la Torah est donnée à Israël. Alors j'explique un peu plus. Vous vous rappelez que dans le sujet général du livre de Vaïkra, c'est la sainteté. Et elles n'ont pas eu l'occasion cette année de voir toutes les sidrotes depuis le début. Mais vous avez dû remarquer, ceux qui ont suivi tous ces textes et qui les ont étudiés, que le livre de Vaïkra rassemble toutes les mitzvot qui concernent la pureté, l'impureté et le projet de sainteté. En particulier, le verset le plus important qui se trouve dans la paracha de Kedoshim d'ailleurs, c'est Kedoshim diyu ki kadoshani Hashem Elokechem, et qui formule le projet du Créateur pour l'histoire humaine. Ce que j'ai appelé dans un autre vocabulaire, dans d'autres analyses, le projet du Créateur pour l'histoire du monde au septième jour. Vous vous rappelez, dans le premier chapitre de la Torah formule le projet de la création pour chacun des jours, des six jours du commencement, et à la fin du sixième jour apparaît l'homme dans l'histoire, et donc il y a un projet pour l'histoire humaine, ce qui s'appelle en hébreu la Kedusha, la sainteté, d'arriver à réaliser la sainteté. Nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier cette année, je pense, la notion de sainteté, non, puisqu'on n'était pas là à la paracha de Kedoshim. Je vais simplement vous donner une des réponses qui ont été données par les sources, c'est chacune des valeurs qui sollicitent la conscience humaine est un absolu pour lui-même, mais la sainteté n'apparaît que lorsqu'il y a l'unité de toutes les valeurs à la fois. C'est cela qu'il faut toujours se souvenir. Les valeurs elles-mêmes sont en état de dispersion. Elles peuvent être atteintes chacune pour elles-mêmes, mais le projet de l'authenticité de la créature n'est vraiment atteint que lorsque cette unité des valeurs se fait. Et dans chaque chemin où cela tend à se réaliser, apparaît un projet de sainteté. Qu'est-ce que c'est que dans sa qualité, la valeur de sainteté, c'est le sujet de la Kedusha pour lui-même. Peut-être qu'il nous reste du temps tout à l'heure, je reprendrai ce problème. Mais simplement déjà, formellement, ça nous fait comprendre pourquoi la Torah, en tant qu'elle est l'ordre des mitzvot qui permettent de réaliser la sainteté, va être donnée à Israël, qui d'autre part est le peuple de l'unité. Allez, vous relevez ces deux registres. L'humanité est elle-même dans son histoire propre en état de dispersion, et chacune des manières d'être homme, enfin comme nous disons les nations, est capable de réaliser une des valeurs, et je dirais même à la limite, elle devient le véhicule privilégié de cette valeur. C'est chez cette nation-là qu'on finit par se renseigner lorsqu'on veut s'enseigner à propos de telle valeur particulière. Le cas d'Israël est un cas particulier, tout cela, bien entendu, je schématise en vous créditant du bénéfice des études antérieures. Le cas d'Israël est un cas particulier, il n'est pas donné à la réalisation de telle ou telle valeur en particulier, mais à un projet qui est littéralement surhumain par rapport au niveau de l'histoire humaine en général, qui est celui de l'unité de toutes les valeurs à la fois, et vous retrouvez le problème de l'identité des patriarches, ce que nous avons étudié à ce sujet. Et le fait que les commandements de la Torah concernant l'exhortation de la pureté, je ne sais plus comment on dit en français, mais vous voulez fermer la porte, ça me gêne, le bruit qui est là-bas, ou alors l'autre porte là-bas, je ne sais pas. Le fait que les mitzvot concernant la séparation de l'impureté et la restauration de la pureté sont donnés de façon corollaire au projet de sainteté est un sujet pour lui-même. Je vous rappelle brièvement, je ne sais pas si nous l'avons étudié cette année, c'est-à-dire que seul celui qui est candidat à l'identité de sainteté est vulnérable à l'impureté. C'est la raison pour laquelle il y a une accumulation des prescriptions concernant l'impureté et la pureté Vous comprenez le sujet. Dans ce livre de Vayikra, ce qui, du point de vue des évidences de la culture générale, pourrait nous paraître paradoxal. Précisément, celui qui est donné à la sainteté, par définition, devrait être défini comme étant insensible à l'impureté. Et la Torah nous dévoile que c'est en réalité exactement l'inverse. Si nous restions au niveau d'une morale d'intention qui ne touche pas la réalité, alors on pourrait suivre ce principe que je viens de citer comme étant un principe faux, mais qui est une évidence de base de toute la culture contemporaine. Je ne me rappelle plus une des formules qui me revient en mémoire, tout est pur pour les purs, par exemple. La Torah va nous dire tout le contraire. Pour le pur, tout est danger d'impureté. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet de sainteté, alors précisément la pureté et l'impureté, ça devient sérieux. C'est plus une morale d'intention, c'est une réalité concrète. Ceci nous fait comprendre que l'on n'a pas à s'étonner. Je veux dire, je voulais d'abord parler de l'étonnement à la lecture de ce texte. Comment se fait-il qu'à partir du moment où Israël est défini par ce livre de Vayikra comme étant Am Kadosh, le peuple de la sainteté, c'est précisément à lui, lui qui est interpellé de manière aussi systématique concernant les risques d'impureté et l'exhortation à la pureté. Voilà pour le premier terme. Je pense que c'est important de le comprendre. Et vous suivez toutes les sidrotes du livre de Vayikra dans les différentes situations, comportements de l'identité humaine. En fin de compte, la pureté, l'impureté au niveau de la vie intérieure, l'intention de la faute ou l'intention de repentir, c'est tout le problème des sacrifices qu'il y a dans les premières sidrotes. Le problème de l'expiation, ça concerne la revirginisation de la vie intérieure, comme je le dis souvent. Et ensuite, le problème de la pureté et l'impureté au niveau corporel, l'atteinte au corps qui est le véhicule de la présence de la personne humaine. Ensuite, la pureté et l'impureté au niveau de la maison. Vous rappelez de tout cela, ce qu'on fait, au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements. Et on pourrait s'étonner, mais il s'agit d'un peuple saint. Et voilà que la Torah cherche dans la mine ici la plus détaillée à dépister l'impureté. Donc nous sommes là dans une atmosphère d'évidence spirituelle radicalement inverse. Je ne voudrais pas trop schématiser parce que c'est considérablement nuancé dès qu'on entre dans le monde des valeurs, mais radicalement inverse de ce qui a fini par être l'évidence immédiate dans la culture occidentale. C'est dès qu'on a atteint à une contemplation de vérité, dès qu'on est sensible à une perception idéale, intellectuelle, spirituelle de sainteté, alors on est dégagé de comment dit-on ça en français, des routes. De circonspection concernant les réalités immédiates de la pureté ou de l'impureté. C'est un sujet pour lui-même qui est extrêmement important et que je voulais d'abord signaler en introduction. Et puis finalement, cette sainteté, à travers le texte, envahit toute la réalité du monde, le temps, l'espace, vous rappelez le Shabbat de la Terre, ou le Shabbat dans le temps, le Shabbat dans l'espace, etc. Et finalement, une fois que tout cela est récapitulé, alors voilà que apparaît ce dilemme, cette alternative, on cherchera peut-être un mot français plus précis tout à l'heure à la lecture du texte, étant donné qu'il s'agit d'une identité ainsi définie, alors le sort qui s'y attache, comment dire, l'éventualité du sort qui s'y attache va être, elle lui aussi, dans les dimensions de l'absolu. C'est-à-dire qu'il va s'agir de ce qu'on appelle d'une façon générale la bénédiction ou la malédiction. Et je prends pour moi des termes qui renvoient des expériences beaucoup plus proches de notre expérience immédiate. Disons le bonheur et le malheur, toutes sortes de bonheur et toutes sortes de malheur. Ça se somatise ainsi. Et maintenant que vous connaissez le statut d'identité qui est le vôtre dans ce projet de sainteté, alors sachez que s'y attache, dans le cas où ce statut est réalisé, le bonheur d'être, dans le cas où ce statut n'est pas réalisé, le malheur d'être. C'est inévitable, ce n'est pas l'un seul ou l'autre seul, c'est les deux faces de la même médaille, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une réalité qui va être testée, évaluée au niveau de l'absolu, alors le fait d'être lui-même sera vécu au niveau de l'absolu, parce que, puisque la sainteté c'est sérieux, alors le bonheur d'être ou le malheur d'être seront sérieux. On ne lira pas tous les détails, c'est très difficile à lire. Encore une fois, ils sont très, très faciles à traduire, parce que finalement, nous avons vécu dans notre histoire au paroxysme cette espèce d'éventualité, ou ça, et à l'échelle générale de l'histoire d'Israël comme collectivité, toute notre histoire nous est récapitulée avec une espèce de... ça nous est asséné de façon très, très, très lourde, soit à l'échelle de l'énergie. Là, je reprends des formules qui me sont bien éclairées de ce problème. À partir du moment où un être humain est candidat à l'être vrai, alors tout ce qui lui arrive est vrai. Le bonheur est vrai et le malheur est vrai. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'altitude, disons, de cette alternative. C'est l'éclair. Ça, c'est ce qu'on appelle les tochachot. Les tochachot, s'il n'y avait pas un abîme jusqu'au tableau, je vous mettrai sur le tableau, mais essayez de voir ça visuellement. La tochacha, c'est l'exhortation à l'interpellation morale. Alors les tochachot de la Torah elle-même sont dans cette paracha de Berukhotah. Et les tochachot que Moïse, à la fin des 40 ans au désert, donnera, révélé par Dieu lui-même, mais à travers Moïse, au bout de son expérience de cette histoire des 40 ans du peuple de la sortie d'Égypte, se trouve dans la paracha de Kitavo. Et elles sont encore beaucoup plus difficiles d'ailleurs. Alors encore une fois, on va commencer le premier point que je vais analyser avec vous. Je vous rappelle le principe que nous avons vu souvent, le fait que cette éventualité sous forme d'alternative, que cette double éventualité nous soit ainsi formulée, formulée de façon aussi massive, ça ne signifie pas que c'est une prophétie de fatalité fatale. Je pense que vous avez déjà dit à cette mise en garde. Hein. Ça veut dire que tout se passe comme si on pourrait nous décrire les conditions de notre propre identité. Elle ne veut pas nous prédire notre histoire, mais nous décrire les éventualités. D'ailleurs, de façon générale, toutes les prophéties sont dans le même principe. Le prophète n'est pas le devin qui annonce que tel événement va arriver tel jour à tel endroit. Le prophète est celui qui diagnostique les éventualités. Et vous verrez, en étudiant les prophètes, peut-être une des années enfin. Sur les prophètes, la paracha est ouverte chaque année, mais enfin, peut-on n'essaie pas d'ajouter un truc, parce que je crois qu'ils sont, tout le monde parle des prophètes, et puis ils sont très peu étudiés, etc. Hein? 1000 études, il faudrait 365 000 études. Et en fait, je rappelle très brièvement, avant de reprendre dans le système d'éducation traditionnel, tous les textes du Tanakh étaient étudiés par cœur quand on était enfant, ce qui fait que lorsqu'on devenait adulte, on avait sur quoi réfléchir. Mais le fait de récupérer les textes des prophètes, je ne sais pas comment dire, aujourd'hui, qui finalement connaissent les prophètes, ceux qui font des doctorats de prophétie pour devenir professeurs de prophètes. Mais, bon, je referme cette parenthèse. Chez les prophètes aussi, c'est la même. C'est la même dimension. C'est-à-dire le prophète diagnostique les différentes éventualités qui s'attachent à telle ou telle histoire, à telle ou telle manière d'être. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'une prédiction de fatalité, mais d'une analyse des conditions qui s'attachent à une certaine identité. Je pense que c'est suffisamment clair. Le fait que nous soyons à la fin de toute cette histoire, et que ça soit passé de cette manière plutôt que de l'autre manière, il faut être assez prudent. Les deux choses se sont réalisées dans l'histoire d'Israël. Et la ligne de la bénédiction et la ligne de la malédiction. Et on est surtout sensible au souvenir des catastrophes, et on oublie l'autre dimension. Je ne sais pas comment on dit dans la sagesse des nations, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, parce que toute leur histoire est faite des malheurs qu'ils ont eu entre temps. On pourrait dire ça. En réalité, les deux choses se sont réalisées. Alors voilà comment est formulé ce dilemme. Je prends d'abord le premier verset de la paracha, c'est-à-dire le verset 3 du chapitre 26. In Berukhotai Telechu. Littéralement, si vous suivez, allez, marchez, allez, si vous allez dans le sens de, si vous vous comportez selon Chokotai, mes lois, Petite parenthèse, vous savez que dans l'hébreu de la Torah, dans l'hébreu du Mikra, il y a différents thèmes pour dire la loi. Vous pouvez avoir Torah, Mitzvah, Mishpat, Mitzvot, Mishpatim, Chukim. Ici, nous avons l'expression de Chukot, qui est un des pluriels du mot de Chok. Ça veut dire une loi de principe, une loi absolue. C'est-à-dire une loi qui ne se borne pas à dire le statut des actes, mais à dire le statut de l'être même, du sujet de ces actes. Encore une fois, et c'est important de revenir souvent là-dessus, pour bien comprendre la portée de ce qu'on fait la Torah dans ce sujet en particulier, que c'est une législation qui porte sur l'identité. L'acte finit dans sa répétition même par se récapituler dans une manière d'être. C'est-à-dire l'acte devient de l'être. Alors, les lois qui disent le statut de l'être sont les chokim ou les chokom. Alors que les mitzvot, ce sont des lois qui régissent les actes. Je pense là une analyse assez simple à comprendre. Et pour indiquer le fait que la Torah a choisi le mot de chokot. Dans ce verset, je vous traduis d'abord le verset. In bechokotai telechou, si vous vous conduisez selon mes. On a l'habitude de traduire au niveau du dictionnaire mes statuts, avec un T à la fin, selon les. C'est-à-dire les lois d'être. Vet mizvotai tishmeru, et que mes mizvot, mes commandements d'actes tishmeru, vous observez, vous voyez à différents niveaux, ok. Ça veut dire qu'il ne suffit pas des uns ou des autres. Il faut les deux. Venatati kishmechem beïla. C'est le commencement de la promesse de bénédiction. Je donnerai vos pluies en leur temps. Vous voyez qu'on reprend le problème de ce qui fait être la nourriture à la racine. Okay. Et là, il y a un point très important que je me borne à signaler. Je crois qu'énormément de poètes en ont parlé. Vous pouvez retrouver ça dans votre littérature universelle. Le bonheur se définit lorsque les choses arrivent en leur temps. Je pense que c'est clair comme thème, c'est très important. Il y a une expression traditionnelle très importante, vous allez apprendre ceux qui ne la savent pas, « Daba beito mato ». Lorsqu'une chose arrive en son temps, « mato ». Alors n'importe quoi, ça devient « tov ».« Mato », non, c'est un chidouche, non, vous avez compris. « Combien c'est tov ?»« Mato », »« Combien c'est tov ?» lorsque les choses arrivent en leur temps. Je crois que si on veut définir le kikoul, le manque de mise au point qu'il y a dans ce monde-ci, ou les traces de chaos qui restent et qui se compliquent dans l'histoire de ce monde-ci, on pourrait le définir comme ça d'abord, c'est que les choses n'arrivent pas en leur temps. On est à la poursuite des coïncidences dans le sens temporel, que ça coïncide. Okay. Vous remarquerez d'ailleurs qu'un des principes de définition de l'un de l'autre, c'est des mitzvot qui arrivent en leur temps. Je veux dire, est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Il y a toute une discipline qui fait qu'on est régularisé dans le temps. Par exemple, fêter Pessah à Shavuot, ça ne marche pas. Sonner du chauffard à Kippour, non, pas oui. Et encore, on sonne du chauffard quand c'est fini à Kippour. Mais il est compris que les choses arrivent en leur temps. Et suit toute une série de promesses d'un monde mis au point, c'est-à-dire d'un Olamazé qu'on pourrait appeler le Gan Eden. Et je vous citerai tout à l'heure un Rashi sur un des versets de ces promesses de bonheur qui montre qu'il s'agit de ça. Ça veut dire l'idée d'avoir Beito Mato suffirait à transformer le Olamazé dans son Kilkul Mekulkal, ça veut dire détrapé comme il est, dans un Olamazé qui vaudrait la peine d'être vécu, ça s'appelle le paradis. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire avant?
Oui, quand je pensais que les Foucault, c'était une catégorie de loi qui n'avait pas une explication rationnelle ou apparente à l'homme, par exemple la chose.
Tu veux dire une explication sans adjectif?
Oui.
Oui, c'est l'explication habituelle. Hein. Je ne voulais pas parler de ça, mais je vais y revenir, je vais tenir compte de ta question tout de suite. Voilà comment commence le discours de l'ordre du bonheur. C'était dans le premier tableau de la volet de l'alternative. On va lire très rapidement le deuxième et ensuite on reviendra un peu sur le contenu. Alors prenez quand même Rashi. sur le premier verset, Rashi va nous restituer le raisonnement auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire il y a des lois qui formulent, qui expriment le statut d'être, et il y a des lois qui expriment le statut des actes. Et ici, le problème, le thème qui est touché ici est très important. Les actes sont indispensables pour que l'être s'améliore, pour que l'être devienne ce qu'il doit devenir. Mais l'essentiel, c'est que l'être le devienne. L'acte est éphémère. Est-ce que c'est bien clair? Il y a donc un statut des actes comme actes et un statut de l'être comme être. Et il en résulte toute une série de catégories qui sont importantes à rassembler, que, à ma connaissance, pour la première fois dans toute l'histoire de la tradition talmudique, le Rav Kook a reformulé pour le temps contemporain, pour la première fois, le mérite d'acte et le mérite d'être. Et je ne signale que cette catégorie-là aujourd'hui, mais c'est tout un faisceau de reformulation des catégories de la moralité que nous lui devons à ce niveau-là. Et alors, voilà comment le Midrash, selon le Torah de Kohanim, que cite Rashi, restitue ce raisonnement. Peut-être que cette expression, si vous vous conduisez d'après mes statuts, d'après mes lois, chokot, il s'agit de la pratique des mitzvot. Je relis Rashi, je redevais bien les termes pour retenir le sens en hébreu et en français. Yachol, cela pourrait être, zé, cela, kiyum amidvot, la pratique des commandements, mais nous avons déjà appris que mitzvah, c'est le commandement d'acte, et chokot, c'est le commandement d'être. Et encore une fois, il faut reprendre ce sujet-là 100 fois de notre temps, parce que c'est une des évidences de la raison traditionnelle qui a complètement disparu de la civilisation contemporaine. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas besoin de vous donner des images, des illustrations. Il y a le sujet des actes, et c'est le sujet qui est l'être qui existe. Et les actes le nourrissent d'être, je ne sais pas comment vous dire, le nourrissent de mérite d'être. Mais les actes sont éphémères. Il y a donc deux niveaux de jugement, le jugement des actes et le jugement de l'être. Et vous comprenez pourquoi l'alternative du bonheur d'être ou du malheur d'être porte dans cette paracha, parce qu'il s'agit des lois de la manière d'être, beaucoup plus que des lois de la manière de faire. Le faire, l'acte, c'est de l'ordre de l'avoir, j'ai mon acte. Alors que l'être, c'est de l'ordre de l'être. Et l'être possède son avoir, se constitue de lui, mais l'avoir est éphémère et c'est l'être qui est celui que nous sommes. Ça va jusque-là? Bon, à un niveau très, très simple, essayez de reprendre le problème de l'habitude, nous devenons le résultat de nos habitudes. Alors finalement, chaque acte ponctuel de l'habitude, finalement, est éphémère. Mais le devenir à travers cet éphémère, c'est lui qui est, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, c'est lui qui est, vous allez me le dire, c'est lui qui est permanent, être vraiment. Bon. Alors voilà donc comment la question est posée par le Midrash que cite Rashi. Yachol de kiyum amitzvot, peut-être que lorsque la Torah a dit in bechukotai telechu, il s'agit de l'application, de la pratique des mitzvot, et chez vous même, vet mitzvotai kishmeru, mais lorsque la fin du verset dit et que vous observiez mes mitzvot, c'est là que on parle de la pratique des mitzvot, ave kiyum amitzvot amour, ok? Vous avez bien compris le donné du raisonnement, okay? Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi. Alors là, le Midrash demande « Mani mekayem im bechukotai terechu ». Alors comment je réaliserai si vous conduisez d'après mes statuts, d'après mes chukot, qui n'est pas « ve mizotai tishmeru », ça c'est « kiyum mitzvot », ça c'est la pratique des commandements au niveau des actes, c'est clair? Alors il y a une seule réponse possible « shetiyu amelim batom ». Que vous, allez, aidez-moi à traduire. Chez Kiyou, que vous soyez Amélim. Que vous. On a des problèmes de dictionnaire. Une œuvre, c'est pas forcément une œuvre pénible.
Que vous soyez diligent.
Non, que vous œuvriez. Oui. Amal, ça ne veut pas dire forcément que c'est pénible. Ça y est, c'est clair? Amal, c'est une œuvre qui mérite les efforts qu'il faut faire pour la faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mot négatif. Je pense que c'est ça. C'est qui? Amélim. Alors, on va vous traduire dans les traductions à travers les dictionnaires. que vous baigniez dans la Torah, pas peindre, mais baigner. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a pas que vous étudiez la Torah? Non. L'action de quoi? Étudier. Vous n'avez pas tous à la fois. Non. Non, il s'agit de l'étude de la Torah. Après, tu me rappelleras si j'oublie que je vais arriver à ta question. Il s'agit de l'étude de la Chétio, Amélim, la Torah. Mais tout à fait actif. J'entends pas encore le chidouche. Mais faire effort en vue de quoi? Est-ce que vous comprenez bien la question? S'il s'agit d'étudier la Torah, dis-moi, étudier la Torah. Mais pourquoi tu t'exprimes comme ça? Je prends le langage des rabbins en Talmud Torah. Je vais vous donner un exemple. On va s'approcher. Remarquez, je vous dis souvent que notre difficulté, c'est qu'on étudie l'hébreu en français. Mais peut-être parfois ça aide, parce que ça permet de comprendre en français à quel point on n'a pas compris ce qu'il y a en hébreu. Parce que sinon on ne s'en pas compte. Il y a une Mishnah qui dit « Aforba, va'aforba, bekulaba ». On traduit les dernières Mishnah du Kassarou, il s'agit de la Torah. « Aforba, tourne là et retourne là, parce que tout est dedans. Aforba, va'aforba. » Ça vous aide à comprendre ce que ça veut dire, que j'ai dit « Amélim Batora » Comment? Je sens que vous avez un peu senti, mais... Voilà. Et, reprenons la Mishnah. Pourquoi j'ai besoin de prendre des versets, de les mettre en morceaux pour savoir comment ils se reconstituent et que j'entende quelque chose, okay? Je lis quelque chose. C'est quand il se pose à moi une question nouvelle. Vous comprenez? Quand il se pose à moi une question nouvelle, qu'est-ce que la Torah dit? Il faut que je la fasse parler. C'est clair? Alors, c'est dit, que vous ne considériez pas l'étude de la Torah comme un exercice intellectuel de connaissance. Mais il s'agit d'un travail au bout duquel la Torah va parler. C'est bien clair? Pourquoi? Parce que précisément, la Torah n'est pas seulement un code du comportement des actes, elle est notre statut d'identité. Je dis souvent, c'est notre carte d'identité parce que c'est notre charte d'identité. Vous voyez à peu près ce que veut dire cette expression. Alors il faut passer par l'école des chartes. Il faut que la Torah soit l'ishma. Alors, je reprends la formule qui a bien fait de me rappeler. Bien sûr, l'essentiel, c'est l'être. Mais l'être devient le résultat de ses actes. Donc, les actes sont très importants. Simplement, j'ai signé une année ça pour montrer qu'il y a deux niveaux. Hein. À partir du moment. Je vous donne un exemple qui va vous étonner. Peut-être. Certains d'entre vous qui ont étudié le Midrash, les règles du Midrash, le connaissent peut-être. Le Midrash établit, en étudiant l'histoire des patriarches, où il y a des comportements. Difficile à définir, ambigu. Okay. Et alors, c'est le problème de ce qu'on appelle Agadosh et Dofi. Quand quelqu'un lit un texte d'un des récits de l'histoire des patriarches, et d'après la façon dont il va dire « Ah, il a agi en bien ou il a agi en mal », il dit ce que lui-même est. Ça s'appelle Agadosh et Dofi. C'est-à-dire, si lui avait fait ça, ça aurait été un mal. Il explique comment c'est un mal. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. Comme ça, c'est un mal. Et de même pour l'autre côté, quand c'est un bien, vous avez compris ce que... Non, alors je vais expliquer par un exemple. Je sais, en général, ce genre de raisonnement, c'est pas facile à comprendre. Mais il faut illustrer. Par exemple, dans les 10 premières pages de la Gemara de Pesachim, qui traite de Pessah, il y a toute une série d'exhortations qu'il faut faire attention à la manière dont ils s'expriment. Parce que dans la manière dont ils s'expriment, on dit qui on est. On ne dit pas seulement ce qu'on dit, à travers la manière dont on dit ce qu'on dit, on dit qui on est. Vous avez compris? Bon. Je crois que c'était Buffon qui disait « le style, c'est l'homme ». Oui, alors il faut dire l'inverse. L'homme, c'est son style. Et c'est clair. Et alors, effectivement, très souvent, on sait très bien lorsque quelqu'un dit quelque chose qui pourrait... Lorsque quelqu'un dit quelque chose, et je vais vous donner un exemple, on sait très bien, dans la manière dont il dit ce qu'il dit, si c'est un sadique ou un rachat. Et ça veut dire que ça ne trompe pas. En particulier, dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Vous vous rappelez de cela? Et alors, à première lecture, on est très gênés, nous, les descendants de Jacob, d'être les descendants de quelqu'un qui a trompé son frère et lui a pris les bénédictions, etc. Vous vous rappelez de cela? Bon, finalement, le Midrash explique que c'est évident que Jacob est Ésaü et que Ésaü le rachat. Et en particulier, dans un exemple, lorsque Ésaü s'adresse à son père pour lui demander de manger du plat préparé, là, vous vous rappelez, alors il dit « Yakum Abi ». Ça veut dire que « et si tu te levais pour manger déjà okay ?» Un genre comme ça. Alors que Jacob dit « Laisse-toi, je t'en prie, vous rappelez ?» Bon, c'est enseigné par le Midrash à propos de la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ils étaient jumeaux, donc le timbre de la voix était identique, mais pas la façon de parler. Et alors le Midrash dit, Halakha, tout ce que fait un tzadik, c'est une bonne action, même si t'apparaît que c'est une mauvaise action. Halakha, tout ce que fait un rachat, c'est une mauvaise action, même si t'apparaît que c'est une bonne action. Vous avez compris le... Exactement. Il veut savoir diagnostiquer. C'est dans le Midrash Chouma, ça commence par Yiram de Nourabi, Halakha, Esav, Tzadik. Et alors, il s'agit d'un tzadik ou d'un rachat. En général, comme vous savez, nous sommes des bénénis, c'est-à-dire, on est judon, il faut juger chacun. Mais, c'est clair? Non. Pourquoi je vous ai cité tout ça? Ramenez-moi un peu en arrière. Je n'ai pas encore répondu à ta question.
Ah, oui.
Torah Lishma. Ok, bon. Alors, en tout cas, je reviens à ta première question. C'est qu'on a l'habitude d'expliquer que le chok, la chouka, les choukim, les choukot, seraient des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Et tu m'as cité par Adouma d'ailleurs. Alors, en fait, ça veut dire que des mitzvot qui sont difficiles à comprendre, c'est autre chose. Mais justement, regardez bien ce que dit ici Rashi, qui cite le Midrash de Torah de Kohani, à propos de Yimper Choukotai Telechou. Que vous étudiez les choukot, ça veut dire on peut le comprendre. Alors en réalité, je vais essayer d'expliquer cette explication habituelle qui n'est pas exacte. En réalité, vous verrez ça à propos de Paradouma, justement. Que les mitzvot, dit le Midrash, que cite Rashi, à propos desquels le Satan et les Umot Haolam contestent en disant qu'est-ce que c'est que ces mitzvot de complaisance que Dieu vous a donné. Alors nous devons leur répondre à qui? Au Satan et au Montar Olam, c'est une décision de notre Dieu, nous n'aurons pas la discuter. Regardez comment on a tordu ce Midrash. En lui faisant dire, on ne peut pas comprendre, il faut obéir sans discuter. C'est-à-dire quand le Satan et au Montar Olam contestent en disant, quels que sont ces mitzvot privilégiés que votre Dieu vous donne par complaisance, on leur répond parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Eux, on leur répond, nous on ne cherche pas à comprendre. C'est ça. Alors c'est de là qu'est venue cette légende. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut comprendre les roukim ou les roukot, mais qu'est-ce qu'a dit Hachim ici, qu'est-ce qu'a cité le Midrash, que les roukot, il faut les étudier en vue de quoi? En vue de connaître leur signification, de telle sorte d'en déduire des conséquences nécessaires lorsqu'une question nouvelle se pose au niveau du monde. Parce que si on n'étudie pas les roukim, si on n'étudie que les mitzvot, au moment où nous sommes interpellés par l'histoire au niveau de l'être, on ne sait plus de quoi il s'agit. On continue à faire les mitzvot, mais et l'histoire et l'être. Et vous avez remarqué à quel point ce sont nos problèmes contemporains, mais c'était des problèmes permanents pour nous. Ok? Bon. Voilà ce que je voulais dire en passant. Ensuite, on va lire d'ailleurs le deuxième rachis que j'ai cité, suivez dans rachis, Veit mitzvotai tishmeru. Rachis dit, et vous ramenez la Torah. Il reprend l'expression précédente, soyez travaillant la Torah, quel que soit l'effort ou la peine dans le sens noble, l'ouvrage que ça vous donne, et en vue de quoi? Almenat lishmor ulkayem, en vue de préserver et de réaliser et d'accomplir. Ce que Rachid veut expliquer, c'est pourquoi il y a ces deux exhortations dans le verset, est-ce que ça va pas de soi? C'est bien évidemment en vue d'accomplir ce qu'il faut accomplir. Si je prends l'image que j'emploie assez souvent, une image mathématique simple, un théorème et ses racines. C'est comme ça qu'on dit un théorème et ses conséquences. Comme ça qu'on dit. Bon, c'est corollaire. Bon. eh bien, les chokim sont au niveau du corollaire, du théorème, et les gmorot sont au niveau des conséquences. Alors, on peut très bien comprendre le lien entre un corollaire et un théorème, mais pour comprendre le sens d'un théorème, ça, c'est une forme supérieure. Il faut travailler pour comprendre de quoi il s'agit. Et alors, lorsqu'on a des corollaires nouveaux à tirer des théorèmes anciens, il faut connaître la signification des théorèmes. Je pense que c'est bien fait. Bon. Ça se relie un peu à tout le problème de Naase Venishma. Okay. Et là aussi, il y a une légende. C'est que pour pouvoir faire, il faut d'abord écouter ce qu'il y a à faire. Okay. Qui va pouvoir faire avant de savoir ce qu'il y a à faire? Ça, c'est pas le sujet maintenant. Bon. Mais simplement, en fin de compte, la réponse, c'est qu'il y a deux ordres de rythme de l'étude pour le maître et pour l'élève. L'élève entend ce qu'il y a à faire avant de comprendre, alors que le maître doit comprendre d'abord avant de dire ce qu'il y a à faire. Sinon, c'est impossible. Enfin, je vous dirai tout de suite quel est le pshat de ce Naase Venishma. C'est pas le sujet, mais on va avoir la peine d'en parler un peu avant Shavuot. C'est que lorsque Dieu a proposé la Torah à Israël, et Israël a dit, Kolachem Liberachem Naase Venishma, faites attention, il y a trois versets. Il y a deux versets où Israël a dit, Kolachem Liberachem Naase, et l'alliance de la Torah n'est pas encore conclue. Tant que Israël a dit tout ce que Dieu a dit, nous ferons, il n'y a pas encore de brit à Torah. Et dès que Israël a dit Naase Venishma, le troisième verset, alors il y a la brit de la Torah. Et alors, le pshat, ça veut dire tout ce que Dieu a déjà dit, nous ferons. Venishma, et nous sommes prêts à écouter s'il y a encore autre chose à faire. Ça, c'est le pshat. C'est bien clair. Mais pour le fond du problème, il faut bien sûr écouter ce qu'il y a à faire avant de le faire. Il y a un midrash dans la Gemara, qui est un midrash de Shabbat, page 88 A, si je me souviens bien, qui dit que le midrash, le mérite d'Israël, c'était d'être prêt à faire avant de comprendre ce qu'il a à faire. Ça, c'est un midrash. Si on revient au Tokshat, et le Midrash dit, qui a dévoilé à mes enfants le secret des anges? C'est les anges qui font avant de savoir ce qu'ils ont à faire. La Gemara, c'est un verset de Psaume qui parle des anges, qui dit, Rosé Devaro, Lishmoa, Bekol Devaro, qui font, accomplissent sa parole pour entendre la voix de Satan. Donc ils font d'abord, ils écoutent après. Ça, c'est les anges, dit la Gemara. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence de niveau. Celui qui doit donner la loi doit d'abord comprendre de quoi il s'agit avant de dire ce qu'il y a à faire. Alors celui qui étudie pour écouter la loi, il doit savoir ce qu'il y a à faire, il a le temps de comprendre. Vous comprenez que c'est deux rimes complètement différentes. C'est bien clair? Alors ne mélangez pas le mot de Rachid et le pshat à ce sujet. Alors Rachid, qui est dans le Midrash, me dit, c'est que ça ne va pas de soi. Il y a énormément de gens qui étudient, mais pas envie d'appliquer. Alors c'est pourquoi il dit les deux parties diverses, vous avez bien compris? Al-Ménat, en vue d'eux. C'est pas ou ça et ça, mais c'est ça en vue. Parce que si j'étudie pas en vue d'appliquer, l'étude elle-même aboutit à des résultats faux. C'est ce qu'on appelle Torah Shelo Lishma. Quand on étudie pas en vue d'appliquer, alors on va comprendre n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec ce que la Torah demande. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'Ishma? Ça veut dire étudier dans l'intention que la Torah a eue en disant ce qu'elle a dit. Sinon, si j'étudie la Torah, je ne sais pas moi, parce que je m'en sers pour faire mon croisé, on appelle ça des doctorats d'études publiques, là vous savez, eh bien, c'est pas l'étude de la Torah l'Ishma. Voilà ce que je veux dire. Et alors je reviens donc à l'analyse très brève du premier discours. Im bechukotai telechu vetumotem tishmeu vaasitemotam venatati lishmechem beitam. C'était le premier thème. Les choses arrivent en leur temps. Premièrement la pluie, grâce à laquelle il va y avoir la nourriture, et en fin de compte tout le bonheur d'être qui est décrit au niveau d'une société dans un monde qui serait un monde vraiment. Ensuite un deuxième thème. Venat naharet yevula, et la terre donnera sa récolte. Ça, c'est le thème de ce qui est stérile, de ce qui existe mais étant stérile, et qu'on reprend d'ailleurs dans le troisième point. Une terre sans récolte, imaginez ça. Un monde sans... je ne sais pas comment vous dire. Là encore, il faudrait être poète pour exprimer ça, mais je pense que c'est sans doute quelque chose. Une terre qui n'aurait pas de récolte. Voilà, c'est l'état d'un monde absurde, qui n'a plus de sens. Et là encore, le signe du sens, enfin de la signification de l'être, c'est quand les choses servent à ce à quoi elles doivent servir. Le natna aret et yehula. Et quelque chose de plus encore, mais ça savait qu'il y a une période. Et l'arbre du champ donnera son fruit. Il y a deux sortes d'arbres. Il y a l'arbre du verger qui donne son fruit déjà, et l'arbre du champ qui ne donne pas de fruit. Alors même l'arbre du champ donnera le fruit. C'est vrai, oui, les trois niveaux de la promesse, donc des bénédictions du bonheur. Alors vous allez prendre un verset qui illustre ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le fait que il suffit de cette mise au point des choses, si j'ose dire, pour que le monde soit appelé paradis. Le rôle amazé soit appelé, ce qu'on appelle en français paradis. Une expression qui me revient souvent et qui est finalement, je pense, suggestive à ce sujet, c'est un monde tel que les enfants le perçoivent, je ne dirais pas dans leur rêve, ou dans leur légende, ou dans leur imagination. Parce que pour les enfants, c'est évident que c'est comme ça que le monde est censé être. C'est-à-dire un monde qui vaille la peine d'être vécu. Sans bavure, sans décalage, sans désordre, sans ce que les Rahamim appellent le kilkula olam, mekulkal, un monde cassé, brisé, pas mis au point. Vous comprenez ce que vous voulez. Prenez le verset 12 du chapitre 26. Halakti, Yudbe, chapitre 26. Vous voulez donner la page
123.
Ah ouais. Halakti, Betochechem. C'est un verset extraordinaire. Veit Halakti, voilà ce qui vous arrivera. Veit Halakti, Betochechem. Je me promènerai parmi vous. Veit Halakhem Elohim, et je serai pour vous votre Dieu. Veitem Tiyuvi Leham, et vous serez pour moi mon peuple. Bon, je n'ai pas traduit très exactement, mais c'est des. Regardez. Des choses simples, évidentes. Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis qu'on est sorti du fameux jardin. Vous vous rappelez le commencement. Alors regardez là. Vitalakti betochech. Atayel imache. Je me promènerai avec vous. Began Haïden, dans le paradis. Kechadikem, comme l'un d'entre vous. Velotiyu misdarvei. Et vous ne serez pas, comment on dit, misdarvea. Plus que traumatisé. Plus que ça. Plus que ça. Vous avez compris les derniers mots. Vous ne serez pas épouvanté. Que ça suffit, le Rokota et Téléru, pour qu'il arrive cette chose-là, que le Créateur se promène avec nous et qu'on ne soit pas épouvanté. C'est la Kedusha. La fin du verset, Yahol l'otirum imeni, peut-être ça veut dire que vous ne serez pas la crainte, le respect de moi, Talmud l'amar veikil achem eloki. C'est pourquoi le verset ajoute, mais je serai votre Dieu. Alors, vous voyez, vous avez compris cette situation, disons, idéale. Donc, prenez aussi le verset 11, si vous voulez, Venatati miskani vetochechem, je m'installerai par vous. Et je n'aurai pas répulsion de vous. Je relirai ça avec ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant, c'est qu'il y a un mot important dans tout ce. Non, ce qu'il y aura après. Ce qu'il y aura après, pardon. Voilà donc pour le premier discours ce que je voulais vous citer. Nous allons lire un midrash à ce sujet. Je reviens sur le mot de Chokim ou Chokot.
À propos de
l'hôpital,
de Natati Mishkani, de l'hôpital, il pourrait surgir une situation où il y aurait le même message, mais qu'on ne le mérite pas. Et alors
Oui, et alors